l'article 2, la révélation. C'est à la force, vous finirez tous par avoir en place le petit manuel de la confession de la Rochelle comme accompagnement à des lectures. Deuxième article, c'est ce Dieu, l'article premier, qui se fait connaître aux hommes, premièrement par ses œuvres, aussi bien par leur création que par leur conservation et la manière dont il est conduit. Deuxièmement, et plus clairement encore, par la parole, qui, au commencement révélée par oracle, a été ensuite rédigée par écrit dans les livres que nous appelons Écriture sainte. Cet article 2, je lui donne pour titre des révélations. Non pas la révélation, comme le manuel, mais des révélations. Chez la deux. Comme vous le savez, les deux premiers articles de la Confession d'Alcana de 1559 ont été vivement critiqués comme étant infidèle à la pensée de Jean Calvin. Alors que le projet du réformateur, souvenez-vous, envoyé par lui au synode, faisait résulter la connaissance de Dieu de la seule écriture, le texte synodal parisien divise en cinq, fait éclater en cinq articles l'admirable prologue calvinien pour faire place, ici à l'article 2, à la révélation que nous allons appeler révélation générale. La confession de la Rochelle débute, nous venons de le voir, par un développement sur Dieu et ses attributs, et ce développement ne fait pas directement référence à la révélation de Dieu dans la Bible. Le présent second article discerne très clairement deux niveaux dans la révélation. Le niveau que nous allons appeler alpha, qui est celui de la révélation générale, la révélation générale, c'est Dieu qui se révèle au travers de l'œuvre de ses mains. Dieu qui se révèle au travers de l'œuvre de ses mains. C'est ça la révélation générale. Dieu se fait connaître aux hommes, premièrement par ses œuvres, aussi bien par leur création que par leur conservation et la manière dont il est conduit. Et bêta, ensuite, la révélation spéciale, où Dieu se révèle plus clairement par sa parole. Deuxièmement, et plus clairement encore, par la parole qui, au commencement révélée par oracle, a été ensuite rédigée par écrit dans les livres que nous appelons Écriture. La différence infinie et qualitative séparant Dieu du monde aurait pu maintenir Dieu au-delà de nous. Mais non, c'est la bonne nouvelle de l'article 2, Dieu ne se cache pas, bien au contraire, il se révèle dans sa personne. Il est le Deus révélatus. Il est le Dieu qui se révèle. Et Dieu se révèle, alors Dieu se révèle dans la Bible. Tous les théologiens sont d'accord là-dessus. Mais Dieu se révèle-t-il, voilà la question ici, Dieu se révèle-t-il en dehors de la Bible? Par exemple, dans l'homme, en forme de Dieu que Dieu seul pourrait en remplir. Dieu se révèle-t-il en l'homme? Dieu se révèle-t-il dans l'histoire? Dieu se révèle-t-il dans l'univers? Si l'on répond oui à cet ensemble de questions, oui, Dieu se révèle dans l'homme, dans l'univers, dans l'histoire, alors votre question: jusqu'où va la connaissance qui en résulte? Ici, la révélation, donc, il y a donc contenu, et s'il y a contenu, il peut y avoir connaissance. Ça, nous le savons depuis le grand catéchisme de Calvin. Quel est le premier article, Boru?
Tu dois répondre.
Oui.
C'est sur la fin de la vie de l'homme.
Voilà.
Qui est de connaître.
Quelle est la fin de la vie de l'homme? Pose la question du ministre. Et l'enfant, catéchisé, répond: c'est de connaître Dieu. Quelle est la fin, le but de la vie de l'homme? C'est de connaître Dieu. Donc il y a une connaissance du temps, c'est un amour. Si un contenu de révélation de Dieu en moi, dans l'histoire, dans la création, alors jusqu'où connaissance. Cette connaissance dite naturelle de Dieu a été reçue de différentes manières suivant les dénominations et les théologies. Grosso modo, quatre courants sont ici en présence. Et voici, non pas le Vedecho, mais le premier courant, c'est évidemment la théologie naturel des catholiques romains. Vous le savez que dans les cours du Doma, on évite de dire catholique parce qu'on pense que la catholicité de l'Église n'est pas réservée aux seuls dits catholiques, en sous-entendu romain, mais que la catholicité de l'Église est aussi valable pour les protestants qui sont, depuis mon point de vue, des catholiques réformés, ou devraient l'être. Alors, ça c'est la théologie naturelle des catholiques romains. Pour l'Église catholique romaine, virgule, dans ses courants majeurs, parce qu'évidemment, il y aura toujours, surtout aujourd'hui, où on ne sait plus ce que l'Église catholique romaine croit. Vous savez qu'au début du siècle encore, on disait, un catholique romain normal disait ce que je crois, allez vous demander à Rome. Et maintenant, Rome elle-même je ne sais plus, je ne crois pas grand-chose. En fait, je me dis, c'est demandable aussi à l'intérieur du catholicisme romain. On est là pour donner des coups sur tout le monde, bien entendu. Alors, le catholicisme romain, bien vu, dans ses courants majeurs, bien vu, pour l'Église catholique romaine, il est possible, sans la foi, et avec la seule raison humaine, qu'en traversier. Il est possible, sans la foi, et avec la seule raison humaine, de remonter par un enchaînement logique à la prima causa. Il faut être grand clair pour comprendre que ça veut dire la première cause. Il est possible, sans la foi et avec la seule raison humaine, de remonter par un enchaînement logique à la prima causa de tous les phénomènes. J'espère finir par avoir quelques accents philosophiques un peu. Ne réservons pas aux rouillères la philosophie. Alors, il est possible, sans la foi, avec la seule raison humaine, de remonter par un enchaînement logique à la prima causa de tous les phénomènes qui est Dieu lui-même. Bon, on s'arrête là. Le dogme de Vatican Ier, numéro 2. Le dogme de Vatican Ier va affirmer ceci, ça sera repris d'ailleurs par le fameux décret Dei Verbum de Vatican II. Alors, Vatican Ier dit ceci, Dieu, principe et fin de tout, peut être connu de façon certaine à partir des choses créées par la lumière naturelle de la raison humaine. Dieu, principe et fin de tout, peut être connu de façon certaine à partir des choses créées par la lumière naturelle de la raison humaine. Ceci, évidemment, devrait faire écho quelque part avec toutes les preuves de l'existence de Dieu, etc., du Roman Nouvel, de Philo, si vous avez eu le bonheur encore d'avoir dans les faits de la philosophie, ce qui n'a pas pu, évidemment, autant y croire. Alors, voyez là, sont posées ici les bases de ce que l'on appelle la théologie naturelle. Aleph Bet. Deuxième position, la théologie naturelle des... Alors j'ai encore changé la rappellation ce matin pour vous. On ne sait plus comment il faut les appeler, tous ces gens. Des libéraux classique protestant. Ces individus sont ceux que j'appelle quelquefois aussi le vieux libéralisme. C'est le libéralisme, vous savez, du siècle dernier, où vous aurez dans les milieux protestants le courant orthodoxe, qu'on appellerait aujourd'hui le bolchevique, et qui a en face, mettrait le couteau entre les dents, le courant libéral. Et ce libéralisme, là, il vous faut mettre les théologiens, Schleiermacher et tout ça, ce libéralisme est mourant aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que celui qui l'a tué, c'est Karl Barth. Et je résume à grand trait l'histoire de la pensée théologico-philosophique, c'est Karl Barth qui a tué les vieux libéraux. Il en reste encore quelques-uns raccrochés au canard qui s'appelle Évangile des libertés. Je ne sais pas si vous connaissez ce canard, on ne l'envoie pas rapidement, sinon on l'aurait. Hein? Alors, Évangile des libertés, si vous voulez, vous avez là encore aujourd'hui dans les autres facultés de théologie, par exemple, vous aurez à Montpellier André Gounel. André Gounel est de ce courant, voyez-vous. Et vous aurez à Paris, vous avez ce représentant de ce courant encore, Laurent Dagneval. Vous aviez, mais ces gens ne font plus mal depuis longtemps maintenant, alors ça c'est le vieux libéralisme, hein. C'est le vieux libéralisme, reste encore dans l'église réformée, les pasteurs en général, de l'oratoire du Louvre. C'est un endroit où on fait très attention pour savoir qui va venir être pasteur, et vous avez évidemment le foyer de l'âme. Avec, par exemple, le Marshall, qui est mort maintenant, hein, le foyer de l'âme. C'est là où on fait des grandes méditations sur un verset de la Bible, on lit le verset de la Bible, on ferme la Bible, on rabat le pupitre pour montrer qu'on n'aura pas de papier, parce qu'on prêche sans papier, et on vous prêche sur un petit bout de verset biblique, 20 minutes. Et alors, c'est la nature, etc. C'est ça, la théologie naturelle, on va voir qu'il a fait. Et puis tout ça, les vignes fantastiques, les étoiles du cosmos et tout ça. Et alors, voilà. Et alors, quand on est très fort, évidemment, on fait une prédication sur « Et l'herbe était verte ». Vous trouvez un passage où il est marqué ceci dans la Bible, « L'herbe était verte ». L'herbe était verte, et on vous fait tout un sermon là-dessus. Le soir venu, Jésus dit, passons sur l'autre rive, et vous avez tout un grand sermon, etc., sur la vie éternelle, le royaume des cieux. Et puis on pratique l'oratoire pour exprimer le labeur et la vie du croyant, il faut une chair. Et les images abondent dans la Bible, le sel, le levain, la sentinelle, le soldat. Mais aucune, peut-être, n'est plus sobre d'humilité et de ferveur que celle du semeur. Cet homme donne la main au Créateur, il puise aux sources mystérieuses de la vie et au travers de la mort, il propage la vie. Comme cette grandeur est vêtue d'humilité. Dans les jours brumeux d'automne, où les horizons sont effacés sur la route dépouillée, morne, qui semble près de mourir, le semeur va d'un pas rythmé, discipliné. Il accomplit ce geste si simple et si soigneux qui commence comme un don et qui s'achève comme une bénédiction. Dans les jours brumeux d'automne, où les horizons sont effacés, sur la terre dépouillée et morne, qui semble près de mourir, le semeur va d'un pas rythmé et discipliné, et quand il rentre au soir, la besace vide, les pieds alourdis et de terre, les épaules brûlantes de fatigue, il est l'image, n'est-il pas, mes frères? Et l'étonnement, etc. Voilà. Alors ça, évidemment, si on choisirait pour texte un semeur sorti pour semer. Voilà. Jean 4, verset 1, mettons, voilà, un semeur sorti pour semer, si on fait alors une grande prédication extraordinaire, c'est ça, ce vieux libéralisme, mais il est tout à fait mourant, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la tête du pavé, c'est une post-orthodoxie néo-partienne dégénérée qui s'appelle le modernisme, qui est à la tête de l'Église réformée de France. Hein. C'est donc, si vous voulez, ce ne sont pas les enfants des libéraux qui sont les modernistes, mais c'est un autre courant. C'est les post-partiens qui vont être les modernistes aujourd'hui. Alors, ces gens-là, le VET, de leur côté, ceux-ci, les théologiens libéraux classiques, ont insisté sur la connoscibilité de Dieu. Connoscibilité de Dieu. Évidemment, alors ça veut dire que on peut connaître Dieu. Dieu est connaissable. ils ont insisté sur la connoscibilité directe de Dieu à partir de la conscience humaine. Et alors, un subjectivisme libéral, Dieu intérieur, au plus intime de moi-même, et je descends à l'intérieur de moi-même pour aller à la rencontre de ce Dieu cosmique qui dirige les étoiles, les principes, etc. Voilà. Alors ça, c'est ça, ma conscience humaine. Et on va parler, par exemple, je cite, de perception existentielle du Créateur dans le champ de l'intériorité. Et alors, ces vieux libéraux, ce libéralisme classique, a ouvert dans le protestantisme la porte à la théologie naturelle. C'est donc la théologie naturelle, pas à la manière des catholiques, mais ici à la manière des protestants libéraux. Comme vous le remarquez, il y a dans ces courants Aleph et Beth la possibilité d'une connaissance de Dieu indépendante de la révélation. Évidemment, pour les libéraux, le drame de la chute est un mérite, etc. Et donc, le péché n'a pas entravé du tout, ni entaché du tout la création et l'homme. Et donc, on peut retrouver Dieu comme si on n'avait pas chuté, finalement, puisque on ne va pas croire à l'historicité, bien entendu, dans ces mouvements libéraux, des événements de la Bible, pas plus de la chute, quelque chose. On ne croit pas à la résurrection de Jésus, mais on va croire à la chute. C'est bizarre. Bon, c'est le doute total. Hein? Bon. Alors, ceci étant et donc Aleph Beth, les deux positions, et alors j'envisagerai alors pour le prochain cours les deux autres guillemets. Commentant l'article 2 de la Confessio Vaticana, nous avons vu que le second article distingue deux niveaux dans la révélation. Premier niveau, la révélation générale où Dieu se manifeste au travers de son œuvre de création, de conservation. Et deuxième niveau, la révélation spéciale où Dieu, dit le texte, se révèle plus clairement par sa parole. C'est ce Dieu qui se fait connaître aux hommes, premièrement par ses œuvres, aussi bien par leur création que par leur conservation et la manière dont il les conduit, deuxièmement, et plus clairement encore, par la parole qui, au commencement révélée par oracle, a été ensuite rédigé par écrit dans les livres que nous appelons Écriture sainte. Parlant de ce problème des révélations, et notamment de la première, nous avons vu que cette connaissance dite naturelle de Dieu a été reçue de différentes manières suivant les dénominations et les théologiens, et quatre courants sont en présence. Aleph, la théologie naturelle des catholiques romains, qui veulent remonter jusqu'à la première cause, qui est Dieu lui-même, par la seule raison humaine. Et puis, nous en étions à Beth, la théologie naturelle des libéraux classiques protestants, eux, j'allais dire, ne montent pas vers Dieu par la philosophie et par la pensée, mais plutôt descendent à l'intérieur d'eux-mêmes, ils veulent découvrir dans l'intériorité, au fond, au creux d'eux-mêmes, dans les profondeurs abyssales de leur moi, quelque Dieu. Et je vous avais montré scéniquement dans le dernier cours combien la prédication libérale est une prédication finalement profonde dans le sens du creux, et on va à partir du petit lapin, dans la nature, on va s'extasier et par là découvrir Dieu. Au total, comme vous le remarquez, dans ces deux courants Aleph et Beth, il y a la possibilité d'une connaissance de Dieu indépendante de la révélation biblique. À présent, Gimel ou troisièmement, la révélation unique, la révélation unique en Jésus-Christ départient. Évidemment, les Bartiens sont les disciples plus ou moins fidèles du théologien majeur du XXe siècle, encore que notre maître via Pierre Mortial et Pierre Marcel aurait dit plutôt que Carbat était non pas un théologien mais un prophète. Finalement, c'est un peu l'opinion. Alors, ces Bartiens, que veulent-ils? Eh bien, ils veulent faire l'exorcisme à coups de boulet rouge, c'est leur seul but, ils veulent exorciser la théologie naturelle pour n'accepter qu'une révélation en Jésus-Christ. Ce sera le christocentrisme, le christomonisme de Carbat. Et cette révélation christique et l'événement unique. Il n'y a pas de révélation en dehors de la parole incarnée. Le Christ même, pour ce théologien et les siens, n'est pas venu restaurer l'image de Dieu. Il ne le fera qu'à la parousie. D'où le vocabulaire doctrinal de M. Barthes, qui ne parlera pas à propos de l'œuvre du Christ, il ne parlera pas de rédemption, mais il parlera de réconciliation. Je pense discerner, même dans le titre des livres de sa dogmatique, un fléchissement, un gauchissement qui indique que finalement, il ne veut pas parler de rédemption, mais de réconciliation, parce que la rédemption ultime, eh bien, il faut l'attendre encore. Ainsi, après la chute, il n'y a pas, pour les Bartiens, de connaissance de Dieu. Il n'y a pas de le chercher, vous ne trouverez pas. Il n'y a pas de point de contact en l'homme que la parole salvifique, que la parole salvatrice pour y rejoindre. Il n'y a que la relation en Jésus-Christ dont la Bible est le témoignage, révélation qui est là comme, je dirais, un état un peu en-dessus de nos têtes, là, et puis, par la grâce de Dieu, et alors ça maintient tout à fait l'altérité de Dieu, les carbates et les théologiens de la transcendance, et bien, paf, comme ça, on reçoit une visitation de Dieu, mais ça ne rejoint rien. Il n'y a même pas d'organe préparé par la révélation générale de Dieu en nous pour recevoir cette révélation de Dieu. Carbart dira que cette révélation de Dieu, nous atteignant, crée elle-même son propre réceptacle en nous, c'est même pas prévu. L'effet du monde phénoménal ne révèle rien de la bonté et de la colère de Dieu, et toute l'exégèse, j'allais dire l'exégèse de Carbart sera de sauter plus ou moins pieds joints le fameux chapitre de Romains 1, qui le gêne évidemment au plus haut point, trop bien on le comprend. Alors, ça c'est la troisième position. Quatrième position d'Alès, eh bien, ça c'est la position des réformés, confessants, c'est la révélation générale des réformés confessants. Pour Calvin, la révélation générale existe, elle se rattache à la création et en particulier, quand il s'agit de l'homme, à l'affirmation dans la Genèse de la création de l'homme à l'image de Dieu. Et dans son commentaire sur l'Épître aux Romains, précisément du chapitre 1er, Calvin dit ceci: nous mettons hors de doute que les hommes aient, alors voilà la notion clé à retenir, un sentiment de divinité. Nous mettons hors de doute que les hommes aient un sentiment de divinité en eux, voire d'un mouvement naturel. Car afin que nul ne cherchât son refuge sous titre d'ignorance, Dieu a imprimé en tous une connaissance de soi-même, de laquelle il renouvelle tellement la mémoire comme s'il en distillait goutte à goutte, afin que, quand nous connaissions depuis jusqu'au dernier qu'il y a un Dieu et qu'il nous a formés, nous soyons condamnés par notre propre témoignage de ce que nous ne l'aurons point honoré et que nous n'aurons point dédié notre vie à lui obéir. C'est le commentaire de ce fameux passage de la colère de Dieu, ce déchet du ciel contre toute impiété chez l'homme qui finit par adorer une idole au lieu de Dieu, alors que les signes de Dieu sont manifestes à travers l'œuvre de ses doigts, et que Paul dit, on voit Dieu comme à l'œil quand on le considère. Calvin discerne trois modes de révélation générale. Alpha, premier mode, la nature. Création. La création révèle Dieu sous deux aspects. L'ordre du monde et la beauté, second aspect, la beauté qui s'en dégage. L'ordre du monde, sa cohérence, son harmonie. Second aspect, la beauté. ordre et beauté. Deux aspects liés. Pour le réformateur, est beau ce qui est ordonné. Cette harmonie n'est d'ailleurs pas statique. Elle manifeste l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, pas seulement au commencement, mais l'œuvre de Dieu en tout temps, l'œuvre de Dieu permanente. Non seulement il a créé, mais il gouverne et maintient. Dieu, le pantocréateur, est tout à la fois l'artisan, l'artiste, et celui qui continue son œuvre de création, évidemment, dans son œuvre de conscience. Ça, c'est le premier mode de révélation générale, à savoir la nature, la création. Bêta, deuxième mode, l'histoire. Évidemment, c'est délicat aussi d'oser déchiffrer le visage de Dieu dans le déroulement de l'histoire. Évidemment, il y a eu rupture, cette rupture qui est le péché, qui rend ce témoignage difficile à interpréter quelquefois. Rien ne se passe que Dieu n'ait voulu et ordonné. Calvin dira, si Dieu cessait une minute de temps son gouvernement de l'histoire des hommes, aucun aspect n'échappe à son rôle de recteur. Dieu ne cesse à aucun moment d'être à l'origine de tout. Dieu ne cesse de contrôler tout ce qui se passe. Et on ne soulignera jamais assez l'importance de la notion de souveraineté absolue dans la théologie de Calvin. Rien n'est banal en ce monde, tout est concerné par la majesté de Dieu. Gamma, troisième mode de révélation générale, l'homme. Vous suivez ? Premier mode, la nature, la création, deuxième mode, l'histoire, troisième mode, l'homme. Quand il s'agit de l'homme, la révélation de Dieu porte plus loin encore, en raison précisément d'une notion extrêmement importante en théologie, c'est la notion d'imago Dei, la notion d'image de Dieu. Commentant toujours Romains, et même Romains chapitre 1, verset 19, Calvin note, il semble toutefois qu'en ce passage, Paul a voulu signifier une manifestation qui presse les hommes si vivement qu'ils ne peuvent reculer, comme de fait chacun de nous en sent le témoignage gravé en son cœur. Car il est dit que Dieu le leur a manifesté. Le sens est que l'homme a été créé à cette fin qu'il fut contemplateur de cet excellent ouvrage du monde, que les yeux lui ont été donnés afin qu'en regardant une si belle image, il soit amené à connaître l'auteur même qui l'a fait. En regardant l'image du livre de la création, il sera renvoyé à son auteur, c'est-à-dire à Dieu. Et dans l'institution de la religion chrétienne, Calvin va parler, par exemple, de semences, je cite, semences que Dieu a plantées dans leur cœur. Voilà la révélation générale pour les hommes, la semence. qu'il y a dans les hommes, cette empreinte nostalgique de Dieu, qui fait que, étant créés, ils ont en eux cette image de Dieu, cette attente en forme de Dieu que Dieu seul peut remplir. Et ce qui fait que, il paraît que ça sera le thème d'une conférence que j'ai appris hier soir, que je devais donner un week-end sportif de Pâques organisé par Marseille, j'en sais rien, les Baptistes, je ne sais plus du tout, mais au grand déjà.
Oui.
Hein?
Oui.
Et bien, depuis hier soir, il y avait terre.
C'est vous qui venez?
Ben oui. Maintenant, ils m'ont eu, c'est un soir, j'ai lâché tout. Et un soir, comme ça, il y a déjà une semaine, j'ai tout lâché, j'ai mis oui. Et puis alors, ensuite, maintenant, le thème, c'est Dieu, l'éternel tourment des hommes. Ça va être le thème. Et c'est plus sportif, ça va être étonnant. Bon, on verra. Alors, voilà. Il y a en l'homme une semence de divinité. Il y a en l'homme un sensus divinitatis, hein, un sens de divinité. Et c'est là, même après le péché, il va y avoir là ce tourment que en l'homme, cette soif de Dieu, que rien ne pourra apaiser. Alors ça c'est autour, c'est la méditation de Calvin autour de l'Imago Dei. Il parlera aussi de semence de religion. Hein, il y a en l'homme une semence de religion, évidemment, et semen religionis. Alors, religionis. Il y a cette semence de religion en l'esprit des hommes. Il y a pour le réformateur, évidemment ça c'est anti-Bartien avant la lettre, hein, il y a pour le réformateur un point de contact préparé. C'est pas du tout une révélation comme ça qui va tomber pneumatiquement et individuellement sur un homme en créant son organe, pas du tout. Il y a en l'homme déjà préparé une piste d'atterrissage, j'allais dire, un point de contact. Qui va être très important, hein, en apologétique. Toute l'apologétique est bâtie sur ce point de contact. S'il n'y a pas de point de contact, il n'y a plus d'apologétique. Et, on vous l'a dit sans doute par ailleurs, c'est parce que Karl Barth a enlevé la révélation générale de Dieu qu'il n'y a plus d'apologétique dans la pensée de Barth et que toutes les facultés de théologie n'ont plus de chair d'apologétique, sauf à Hertz. Vous savez, ici copernicienne. Revenant à la révélation générale de Dieu, on crée l'apologétique. Et tout l'ensemble de la faculté, tout enseignement compris, est un enseignement apologétique. En ce sens qu'on enseigne l'apologétique. Et on enseigne aussi comment persuader par l'apologétique les hommes et les femmes de notre génération. Parce qu'on va dire, il y a un Dieu et tu le sais. Tu ne veux peut-être pas l'avouer, tu ne veux peut-être pas me l'avouer à moi, tu ne l'avoues peut-être pas à toi-même, mais il y a un Dieu et tu le sais, il y a en toi ce point de contact, et nous allons te questionner sur ce point de contact. Nous ne sommes pas des Arméniens qui s'en vont mendiant dans l'évangélisation, aller, on te déballe nos affaires, etc. Sois sympa, augmente vos statistiques ecclésiastiques, bon, etc. Pas du tout, pas du tout. Nous sommes là pour te dire qu'il y a en toi un point de contact qui s'appelle Dieu, et on te le dit, il y a un Dieu et tu le sais. Et on y va positivement, positivement. Et c'est comme ça qu'on peut, à mon avis, évangéliser et avoir une vraie évangélisation et en finir avec la mendicité habituelle de certains milieux. Bon, c'est pas le sujet, nous revenons, hein, nous revenons avant que ça se gâte. Alors, il y a un point de contact particulier en l'homme. Il y a en l'homme gravé en lui l'imago Dei, l'image de Dieu qui le distingue, c'est sa prérogative, des autres créatures. Sinon, on préférerait un chat. C'est la grande différence, c'est ça, c'est l'image de Dieu. Et cette image de Dieu, son siège peut-être, se situe principalement en pensée calvinienne, mais non exclusivement dans l'intelligence. D'accord. Pas évident pour lui, il a remarqué, je vois ma mère, il est allé, il ne comprend pas. Mais normalement, c'est la différence entre un homme et un chat. Hein. C'est l'image de Béli, on le voit à l'intelligence, on le voit à les limites de l'intelligence du chat. Évidemment, quand on devient vieille dame, on pense que le chat parle. La mère entre en phase, elle parle de son chat. Et elle dit maintenant que le chat lui répond. Alors ça, c'est extraordinaire. Elle lui parle, ça c'était valable encore il y a 10 ans. Maintenant, ça, c'est l'étape suivante, le chat répond. Mais le problème, c'est qu'il ne répond qu'à elle. Il n'y a qu'elle qui est branchée, qui comprend sur la zone, et les autres ne comprennent pas. Mais en tout cas, bon. Alors, normalement, c'est ça qui distingue l'animal de l'homme, finalement. Il y a cette intelligence qui distingue l'homme, c'est comme ça, de tous les autres êtres créés. Et cette intelligence n'est en rien, d'ailleurs, une raison autonome. Elle a pour but, c'est même religionniste, elle a pour but de relier, c'est une semence de religion, qui a pour but de relier à son créateur celui qui la possède. Cette semence de religion doit faire connaître Dieu à la créature humaine. C'est pourquoi, méfiez-vous, dans l'évangélisation, je vous le dis en passant, j'ai péché évidemment contre ce que je vais dire mille fois, mais il faut se méfier de cette tactique un peu trop facile dans l'évangélisation. On dit les autres... il y a les religions, etc., et puis il y a Jésus-Christ. Alors, ça semble bien dans l'apologie, mais c'est très limité, parce que le christianisme, c'est aussi une religion. Il faut se méfier, là. Oui, c'est un peu facile de dire, il y a les religions, etc., bon, et puis alors, nous, on ne vous annonce pas une religion, on vous annonce Jésus-Christ. Pas du tout! Nous sommes tous des religieux, donc si tu es religieux, même si tu fais la paix, tu es religieux, forcément, avec les choses, y compris à Germaine. Nous t'apportons la vraie religion. Nous t'apportons la vraie religion. Mais c'est un peu facile de dire bon, il y a les religions, nous on n'a pas de religion, on a le Christ. Non, on apporte la vraie religion parce que cette semence de religion a pour but de relier à son créateur celui qui la possède, elle doit faire connaître Dieu à la créature humaine, elle doit l'inciter à obéir à son Seigneur, et elle doit lui révéler la dimension de l'éternité. Naturellement, donc, par naturellement, c'est pas le naturellement des naturistes, mais c'est le naturellement, si vous voulez, d'avant la chute. Naturellement, donc, par le fait même de sa création à l'image de Dieu, l'homme est doté d'une capacité cognitive, d'une capacité à connaître, non pas bien sûr l'essence de Dieu, Dieu tel qu'il est en lui-même, Dieu dans sa hautesse, Dieu dans son conseil secret, cunéni, non pas l'essence de Dieu, mais l'obéissance. L'obéissance qu'il doit à son créateur. Tout ceci est très joli. Mais il y a un problème. Évidemment, ce problème ici, c'est le péché. Ça ne veut pas dire que cette révélation générale de Dieu ne joue plus. Elle joue, mais il y a un problème, parce que le péché a perverti l'ensemble du créé, y compris dans l'entendement. À cause du péché, qui a tout oblitéré, et c'est le cas de Paris d'oblitérer, puisque vous savez que aujourd'hui, malheureusement, on a un timbre moment. L'oblitération est taxée aujourd'hui. C'est trop tard d'ailleurs, c'est des péchés, peut-être une bonne demande, on ne sait pas. Hein. J'ai quand même posté une de lettres, évidemment, à l'ancien tarif encore. Je le ferai encore demain, parce que je me dis qu'il y a peut-être une zone un peu là, de passage. Mais enfin, en tout cas, tout est flou. Et le péché a tout oblitéré, la révélation de Dieu. Cette révélation de Dieu qui devrait représentation en relief de l'œuvre de Dieu, cette révélation de Dieu ne joue plus pour nous. Cette révélation de Dieu dans le microcosme humain qu'est l'homme, dans le macrocosme créationnel, cette révélation de Dieu dans l'histoire est voilée. L'entendement de l'homme est obscurci. Finalement. Alors, citation, institution chrétienne. Or, combien que Dieu nous représente avec si grande clarté au miroir de ses œuvres, tant sa majesté que son royaume immortel, toutefois, nous sommes si lourds que nous demeurons hébétés pour ne point faire notre profit de ces témoignages si clairs, tellement qu'ils s'évanouissent sans fruit. Il appert que si les hommes ne sont enseignés que par nature, ils n'auront rien de certain de ferme ou liquide, mais seulement qu'ils seront tenus attachés à ce principe confus d'adorer quelque dieu, petit dé, minuscule, inconnu. Ben, c'est ça, Paul, hein? Au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré la créature. Je crois qu'il est avant la rédemption, en Jésus-Christ, dans l'homme d'après la chute, avant que cet homme soit saisi par la grâce de Dieu, le seul objet de la révélation générale, quel est-il, en théologie calvinienne et paulinienne, il est de rendre l'homme inexcusable, de lui faire sentir la gravité de son péché. Elle prive l'homme de toute excuse devant Dieu. Dieu est évident et pourtant l'homme ne veut pas voir. Il est donc inexcusable. Puisqu'ayant connu Dieu, il ne l'a pas reconnu comme Dieu. Il n'a pas rendu grâce et gloire. Au contraire, il s'est forgé cette idole. Cette révélation générale rend l'homme inexcusable, elle lui fait sentir la gravité de son péché. Elle légitime sa condamnation. Et du coup, il ne saurait donc y avoir de théologie naturelle. Et d'après la quatrième position, ben, il faut barrer les deux premières. Hein. C'est impossible. Pas de théologie naturelle. Parce que ça ne fonctionne plus vraiment. Mais est-ce à dire, comme les Bartiens, que ça ne fonctionne plus du tout, cette révélation générale? Eh bien, les réformés confessants diront, ça ne fonctionne pas au point qu'on a l'effet bête d'atteindre impeccablement sans la Bible Dieu, mais ça fonctionne suffisamment, cette révélation générale, pour rendre l'homme inexcusable en le privant de tout alibi. Cette révélation générale, phrase ecclésiale, cette révélation générale est insuffisante pour le salut, mais suffisante pour condamner tout homme en lui enlevant toute excuse. Cette révélation générale, après la chute bien sûr, est insuffisante pour le salut, mais suffisante pour condamner tout homme en lui enlevant toute excuse. Il faut un remède. Quel est le remède? c'est la révélation spéciale. C'est-à-dire, c'est le second niveau. C'est Dieu qui se fait connaître aux hommes, premièrement, par ses œuvres, par la révélation générale. Deuxièmement, et plus clairement encore, par sa parole. Voilà le remède. C'est la révélation spéciale, c'est l'écriture sainte que Calvin compare à des lunettes. Comme ça. C'est pour ça que j'ai mis des lunettes pour lui. Calvin compare la révélation spéciale à des lunettes qui permettent de lire distinctement la révélation des lunettes. La révélation spéciale de la Bible aide à déchiffrer le livre de la nature pour rectifier les tirs, si vous voulez, pour y déchiffrer même après les dégâts du péché, pour y découvrir le message du Dieu. Et le réformateur de comparer aussi la révélation spéciale, pour faire court la révélation biblique, à une échelle qui peut monter jusqu'au ciel. Voilà la vraie échelle de Jacob qu'on dit aujourd'hui, ça, c'est la révélation spéciale, c'est l'écriture sainte. Je cite, « Ainsi l'écriture, recueillant dans nos esprits la connaissance de Dieu, qui autrement serait confuse et éparse, l'écriture abolit l'obscurité, pour nous montrer clairement quel est le vrai Dieu. » Vous voyez que le vocabulaire y est plus clairement, hein, et ici Calvin dit, pour montrer clairement quel est le vrai Dieu. Après la rédemption, c'est-à-dire après la venue de Jésus-Christ, la révélation générale retrouve son premier rôle dans la sanctification, les croyants redécouvrent la révélation générale de Dieu dans son œuvre de création. Le régénéré redécouvre la révélation générale de Dieu dans son œuvre de création, de providence et de gouvernement. Au total, la découverte dans le livre de la nature et dans l'histoire et dans l'homme se fait pour le saint, entendez le régénéré, a posteriori. C'est-à-dire qu'il faut la médiation de l'écriture, c'est ça la paire de lunettes, il faut la révélation, la médiation de l'écriture pour retrouver dans la révélation générale le message du vrai Dieu. Alors, cette révélation spéciale, ce deuxième niveau, c'est évidemment l'objet de l'obéissance de l'Église. L'Église doit obéir à la révélation spéciale de Dieu. Cette révélation spéciale de Dieu, c'est la parole de Dieu, telle qu'elle nous a d'abord atteint sous forme d'oracle, puis a été ensuite rédigé par écrit dans ces livres que nous appelons l'Écriture sainte. Dieu nous a donné sa parole. Nous pouvons échapper aux imaginations fantaisistes. Et Calvin oppose la lumière intermittente des astres, c'est une image, intermittente des astres, entendez la révélation générale, à la clarté de la parole, entendez la révélation spéciale. Ça, c'est le soleil, la révélation spéciale. C'est pas les petits astres intermittents, ce c'est parfait. Le soleil permanent. À propos de révélation spéciale, Calvin osera même parler de théophanie, c'est-à-dire de manifestation de Dieu. C'est la Bible, comme si Dieu venait visage découvert au-devant de nous. Dieu se fait connaître, deuxièmement, et plus clairement encore, par sa parole. Plus clairement. J'attire votre aimable attention sur ce point. Au XVIe siècle, le problème herméneutique, le problème de l'interprétation, dans lequel notre génération se sera tout à fait emmêlée les pattes, quoi. C'est le problème en théologie aujourd'hui, c'est le problème herméneutique. Hein. C'est pourquoi il y a même un élément option dans la maison, je crois, hein, sur l'herméneutique. Hein, avec ça, oui. Eh bien, le problème herméneutique ne se pose pas au XVIe siècle. La parole de Dieu est limpide. Comment réformer au XVIe siècle ? La parole de Dieu est limpide. On va parler de clarté de l'Écriture sainte. On va parler de transparence. L'Écriture sainte est claire, l'Écriture sainte est transparente. Donc voilà une différence avec notre génération. Ou même dans les milieux évangéliques, une fois qu'on a réglé le problème de l'inspiration, qui a été le problème du 19e siècle, et ça va à notre temps, parce que face au libéralisme et au modernisme, nous avons voulu maintenir l'inspiration de l'Écriture. Mais une fois qu'on parle d'inspiration, tout n'est pas terminé. On s'aperçoit que, croyant tous que la Bible est inspirée, on n'arrive pas forcément tous à la même interprétation. Et alors, on a des problèmes à ce niveau-là. Donc, c'est le siècle, on n'a pas ce problème. On pense que la Bible est claire. Seconde petite notation, la question du libre examen. La question du libre examen, dont on veut faire le fleuron de la réforme, cette question ne se pose pas non plus. On dit, et évidemment les catholiques romains ont retenu cela pour nous, on dit que chaque protestant est un pape, la Bible à la main. Chacun fait son tricot, chacun fait sa religion, et chacun fabrique ses affaires. On lui met une Bible et puis, c'est presque vrai, mais... Mais au XVIe siècle, c'est faux. Le problème du libre examen n'est pas. On dit le libre examen qui est une des caractéristiques fondamentales de la réforme. Ce n'est pas vrai. C'est une notion, cette notion du libre examen, qui vient du XIXe siècle. C'est une notion qui vient du libéral Guizot. C'est une relecture libérale de la réforme. Mais on ne voit pas ça à la réforme. Vous pensez qu'à Genève, on va pratiquant la Genève du temps de Calvin, dans cette théocratie, dans cette ville-église, vous pensez que chacun, comme ça, a le loisir, chacun a le loisir de faire ses petites affaires, de fabriquer sa religion. Pas du tout, hein. Ce n'est pas une question parce qu'au XVIe siècle on est intolérant, mais c'est parce que il y a un examen contraignant guidé par le Saint-Esprit. C'est la fameuse notion extraordinaire, calvinienne, du témoignage du Saint-Esprit, du témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est le témoignage du Saint-Esprit qui me tient et ramène sans, et me ramène sans cesse en église, pas tout seul, tout nu avec ma Bible, hein, pas du tout, en église, à la fidélité à l'Écriture. Et on a une idée sainte, peut-être qualifiée, elle serait qualifiée par nous, saintiste, hein, on a l'idée sainte que le Saint-Esprit ne va pas dire aux autres frères de la communauté autre chose que ce qu'il nous dit à nous. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que ce serait ce Saint-Esprit qui, aux uns, raconterait une histoire et aux autres, raconterait une chose différente, voire même opposée. Voilà la notion que l'on a au XVIe siècle. Alors, au point de vue bibliographique, parce qu'on pourrait parler des heures là-dessus, et je vous signale que j'ai consacré le mémoire de maîtrise pour la faculté de théologie protestante de Montpellier sur ce sujet de la révélation générale. Et c'est un travail que j'ai soutenu en octobre 78 et qui avait pour titre « La révélation générale de Dieu, étude de Romains 1, 18 à 21, chez Jean Calvin et Calvin. Virgule, conséquence théologique. » Et pour plus de facilité, je vous renvoie, j'essaie de le faire sans complaisance, à deux articles rédigés à partir du mémoire que je vous conseille de lire dans l'ordre suivant, premièrement, deuxièmement. Premièrement, Carbat, Jean Calvin et la connaissance de Dieu. Filiation ou trahison. La Revue Réformée, numéro 138, 1984, de page 56 à 72. Et je vous signale que cette étude est parue aussi dans le livre Dieu parle. Ex Kerygma. 1984, page 142 à 158. Alors ça serait une première lecture pour compléter ce que je vous dis ici, parce que je ne veux pas dire en cours ce que j'ai déjà écrit par ailleurs. Deuxièmement, Calvin et Barth, débat à propos de la révélation générale, Revue Rorma, numéro 11, 1979, page 64 à 80. Et le second article contient, qui est différent du premier, hein, contient en plus d'une confrontation entre Calvin et Barth, une étude des implications que l'acceptation ou le refus de la révélation générale de Dieu entraîne en théologie. Qu'est-ce que ça change pour différents dossiers théologiques, y compris la politique, bien entendu, et l'évangélisation, qu'est-ce que ça change si on accepte ou si on refuse, si on accepte comme les calvinistes ou si on refuse comme les bartiens, la révélation générale de Dieu? Qu'est-ce que ça change en théologie, hein? Ces voies, cette notion de révélation générale de Dieu comme un verrou stratégique. Hein, la position qu'on prend là, tout peut changer dans plusieurs chapitres de la théologie. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, Barthes est à saluer, hein, parce que c'est lui qui a porté une atteinte absolument mortelle et fatale, il ne s'en est pas relevé, au vieux libéralisme, contre lequel les orthodoxes du siècle dernier avaient vainement essayé de lutter contre le libéralisme et ils ne sont pas arrivés. Et c'est Karl Barth, à lui tout seul, évidemment avec les 1000 pages de sa dogmatique, qui est arrivé à abattre le vieux libéralisme. Alors, s'il a des défauts par ailleurs, il faut aussi lui rendre une pleine justice, je tiens à le faire. Alors, il y a eu le baptisme s'est installé à peu près dès 1940. De 1940 à 1963, le baptisme s'est installé dans l'Église réformée de France d'une manière maîtresse, une main maîtresse générale, et dans le gouvernement de l'Église réformée de France d'alors. Et puis, à partir de 1963, et surtout à partir, surtout en 1968, lorsque les disciples de Barth se sont politisés, en 1968, finalement, l'Empire barthien s'est évanoui, et on parle maintenant de théologie post-barthienne. C'est-à-dire de théologie de la protestation, d'horizontalisme, d'humanisme révolutionnaire, voilà. Mais le baptisme reste encore profondément vivace, mais plus triomphant en Suisse, et le baptisme est, à mon avis, en train, depuis un certain temps, de pénétrer les milieux évangéliques français. Via les GBU, j'espère que les masses ne sont pas partout, via les groupes publics universitaires, etc., dans certains milieux évangéliques, où on a souvent souffert d'avoir fait une impasse de l'intelligence, par redécouvrir un certain emploi de l'intelligence et puis du coup on va peut-être trop loin en étant tenté par le baptisme. Il se constitue en ce moment, je pense, un mouvement néo-évangélique qui sera plus proche finalement du baptisme que de la position que nous maintenons ici, les réformes protestantes. Est-ce à dire que dans tous les milieux évangéliques, on a lu Barthes ? Non, hein, mais la théologie finit par transpirer dans la rue. Et on commence comme ça, et ça descend. Hein. Donc, le baptisme reste encore, je pense, quelque chose qu'il nous faut analyser et contre lequel il faut travailler dans certaines sens. J'ai un poids ici. Ce qui s'est passé en France, il y a eu au début du siècle, jusqu'en 1943, un réveil calviniste autour notamment d'Auguste Le Cerf, qui est le maître de Courtial, de Marseille, et puis par ses maillons du Danube. Mais Marseille est mort en 1943, et Barthes a continué à s'installer en France, dans sa pensée. Et les disciples de Barthes, sauf pour Tiens Marcel, n'ont pas toujours discerné, les disciples de Le Cercle n'ont pas toujours discerné la différence entre le Calvin et Carmar, entre la pensée de leur maître Le Cercle et celle de nouvelle venue de Carmar. Et beaucoup de calvinistes d'alors sont devenus des martiens, en pensant être dans le sillage de Le Cercle. Parce que Le Cercle est mort trop tôt pour que son courant se fortifie et pour qu'il puisse lui-même montrer clairement les différences entre sa pensée et celle de Carmar. Alors beaucoup de gens de la génération de M. Courcal sont allés dans le martisme. Peut-être un peu baissé. Est-ce que ça répond à votre question? Ce qui fait que c'est un problème pour nous entre la génération de M. Courcal, c'est-à-dire des 70, 75 ans, 90 ans, et la mienne, celle de 30 à 30 ans. Entre cette génération, des maillons manquent. C'est à mon avis à cause du baptisme. C'est-à-dire que si on veut trouver, pour ici par exemple, un professeur français, un pasteur français qui ait une théologie calviniste de 55 ans, pour enseigner par exemple le Testament, puisque la question est posée, parce que ça ne suffit pas, on est un secret. Bon, eh bien, c'est à peu près impossible, ça n'existe pas. Parce que des maillons manquent. Il n'y a rien entre la génération de M. Courcal et la mienne. D'un point de vue strictement français, évidemment, on peut avoir échappé des Américains, des Hollandais, n'importe qui exporte. La difficulté est là. Il y a eu une coupure du point de vue qui est le nôtre.
Par contre,
il y a un
choix.
En France et en Suisse. En Allemagne aussi. Peut-être. Mais puis alors, Barthes a aussi eu des retombées dans le catholicisme. Il y a beaucoup de séminaires catholiques, car Barthes est à leur jour. De telle sorte que lorsqu'on s'est permis, M. Berthoud et moi, visitant le cardinal Ratzinger, le cardinal Justizier il y a une semaine, on s'est permis de dire qu'on n'était pas martien, le cardinal ouvert des grands yeux comme ça, et a demandé des explications parce que pour lui, ça lui paraissait évident que des protestants orthodoxes sont des martiens. Alors il a fallu expliquer en quelques minutes différentes, c'était évidemment un peu sportif. Voilà. Thank you.